Voilà. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
No, wounded, sir.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Venose fattifissimo. Come fattifissimo.
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles du vendredi, les furieux, les athlètes, les francs-tireurs du cinéma, bonjour et bienvenue. Vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Et aujourd'hui, une bien belle équipe, puisque je suis avec Sylvain à la réalisation. Salut Sylvain.
Salut.
Et autour de cette table, René.
Bonjour.
Salut René, un petit retour ici.
Retour du refoulé.
Ouais. Olivier, et c'est toi le refoulé, je ne sais pas.
Non, moi je suis le surmoi.
Et Didier.
Et bonjour.
Et en plus, non, le surmoi, on l'a avec nous par téléphone, la star internationale qui va mettre encore plus de paillettes dans cette émission, encore plus de paillettes que d'habitude. C'est Cathy en direct du Festival de Cannes. Salut Cathy.
Oui, salut Sophie, salut les garçons.
Bonjour.
Aujourd'hui, au programme de Cinémascope, il y aura 5 films, Sky Dome 2123, Le Deuxième Acte, Furiosa, L'Esprit Coubertin, et puis Un mot des affranchis qui repasse dans le cadre des 100 ans de la Warner. Mais d'abord, on déroule le tapis rouge à Cathy, directrice de la Maison de l'Image à Aubenas et membre du jury du prix des cinémas Arts et Essais, qui s'apprête à remettre justement le prix des cinémas Arts et Essais à l'un des films en compétition à Cannes demain entre 11h et midi et demi. Cathy, d'abord, toi, tu es là-bas à Cannes. À quel titre ?
Alors, moi, j'ai commencé avant que ne démarre le festival par les rencontres nationales à Arts et Essais, qui sont organisées par l'Association française des cinémas Arts et Essais. Donc, ça, c'est un temps sur 2 jours et demi où la profession se rencontre autour de projections avec une sélection de films. Et là, cette année, il y avait 10 films qui sont des films présentés dans les sections parallèles. C'est-à-dire semaine de la critique, quinzaine des réalisateurs, un certain regard, séance spéciale, séance de minuit éventuellement, tout sauf la compétition officielle.
Ouais.
Il y avait 10 films, et puis après il y avait des temps d'échange, notamment avec le Centre national de la cinématographie, sur la question de la réforme Arts et Essais, par exemple, et aussi d'autres, et l'Assemblée générale de cette structure. Le bilan 2023, voilà.
D'accord. Donc ça, c'est pour les rencontres. Et le lien...
Oui.
Le lien avec ce jury.
Alors, l'Association française des cinémas d'art et essai, depuis 4 ans, constitue un jury à Cannes, jury des cinémas d'art et essai. C'est 5 personnes qui représentent toutes les... La diversité de l'exploitation cinématographique en France, particulièrement cette année. Les années précédentes, il y avait quelques homologues européens. Là, c'est un jury franco-français, on va dire. Voilà, avec des représentants de salles, de circuits itinérants comme dont je fais partie, et puis des salles de la moyenne exploitation. Voilà, Aubenas,
Maximum. D'accord. Ok. Alors, désolé Cathy, on t'entend de manière très très faible. On va essayer de... Sylvain a poussé le son au maximum. Mais est-ce que donc vous remettez votre prix donc à l'un des films qui est en compétition ou qui est dans une sélection parallèle ?
Non, là c'est la sélection officielle, enfin la compétition officielle, il y avait 23, je crois, 22 ou 23 films en compétition. Donc nous en reste encore 2 cet après-midi, enfin, cet après-midi et ce soir, à voir. Voilà. Donc pour l'instant, je ne peux pas évidemment ni dévoiler, ni parler de mes coups de cœur de cette sélection, puisque voilà, on va attendre que le que le prix soit remis demain pour pouvoir parler plus librement de tout ce qu'on aura pu voir. Dans cette sélection, il y a des premiers films. Il y a aussi des cinéastes bien plus aguerris. Hein, on parle de Coppola ou de Cronenberg, ou, voilà, en passant par après Paolo Sorrentino ou Serebrennikov. Mm-hmm. Mais il y a aussi des premiers films qui sont plutôt intéressants. Et seule chose à noter, voilà, il y a quatre films de femmes sur 23. Bon,
peut mieux faire, assez. Ouais. Peut mieux faire, mais je regardais d'ailleurs, on en discutait avec l'une des spectatrices du cinéma Le Navire, on se faisait la réflexion que, en tout cas, cette semaine, il y a zéro film de réalisatrice projeté au Navire. C'est il y a encore beaucoup, effectivement, beaucoup de travail. Si on ne parle pas des films en compétition, puisque on a bien entendu, tu attends. La remise du prix, donc, qui sera demain à peu près heure pour heure, hein, c'est autour de midi. Pour nous en parler, est-ce que tu peux nous parler d'autres films, d'autres coups de cœur que tu as eu dans des sélections parallèles?
Oui, tout à fait. Alors sur les films que l'on a pu montrer ou voir dans le cadre des rencontres nationales à RST, il y a un premier. Pardon, je crois qu'il y a du bleu. Ouais. Il y a un premier film de Jonathan Millet qui était à la Semaine de la Critique, qui sort chez Memento Distribution, qui s'appelle Les Fantômes, qui sortira le 3 juillet, qui parle à la fois d'exil, mais pas seulement, avec un Syrien qui va se retrouver un peu en figure d'espion pour retrouver un de ses tortionnaires. Donc c'est un film qui est très, très tendu. Mmh. Il y a une tension permanente et l'acteur qui est au premier plan est très, 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 très bon. Donc on a ce film-là. On a le Niki de Céline Salette qui va sortir chez Weinberg, qui est un biopic sur Niki de Saint-Phal. Mmh. Niki Salette, c'est une actrice qui a réalisé un film tout à fait original et singulier sur cette artiste. Et c'est plus la naissance d'une artiste qu'on découvre avant qu'elle ne devienne connue et pourquoi elle est allée sur ce type de travail. Mmh. Donc ça, c'était tout à fait bien. On a aussi Le procès du chien de Laetitia Sadoche dont on va pas mal parler aussi, où là, il y a un côté très décalé, assumé, très singulier sur un chien, et tiré d'une histoire vraie, hein, qui est une avocate qui va défendre un chien. Mmh. Et puis, que j'aime beaucoup, parce que c'est bien de rire aussi, même si le sujet est plutôt, entre guillemets, grave, c'est de Jean-Christophe Meurice, le pistolet en plastique, qui revient sur l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès, mais avec beaucoup d'humour. Xème degré, en fait.
Aïe.
Voilà. Et puis il y en a plein d'autres. Hein. Il y a aussi le Jonas Trebal. J'étais très contente parce qu'il a eu le prix Europa Cinéma hier soir, qui était à la quinzaine des cinéastes. Et Jonas Trebal était venu aux rencontres l'année dernière avec sa compagne Tatsu Arana, qui elle venait présenter Les filles vont bien.
C'est vrai qu'on avait interviewé ici à Fréquence 7.
Jolie.
Tous ces films. Excuse-moi Cathy, ouais. C'est assez. On t'entend assez mal. Tous ces films, on aura l'occasion de les voir et puis tu nous en reparleras. En tout cas, demain, c'est la remise du prix, notamment votre prix, le prix des cinémas Arrêt Essai 2024. Et on suivra ça, donc ce sera vers 11h à Cannes.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup,
bon,
Cathy.
Merci à vous
d'avoir été avec
pour
nous.
La mauvaise connexion. Alors, merci.
Non, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Ciao.
Au revoir.
Eh ben, ça y est, nous, on commence à partir. Là, on va parler du premier film, Sky Dome 2123.
Mire Budapesten elfogyott az élelem, már új szisztéma szerint dolgoztunk.
teste felbecsülhetetlen érték közösségünk számára. Töltse értékesen utolsó óráit.
Lorsque la nourriture est venue à manquer à Budapest, nous avions déjà mis au point un nouveau système.
Votre corps est d'une valeur inestimable pour notre communauté. Profitez bien de vos dernières heures.
Skydome 2123, donc de Tibor Banowski. Je ne sais pas comment on prononce, un réalisateur hongrois.
Deux, ils sont deux. Et Sarolta Szabó, c'est un duo.
C'est un duo, merci. Didier, donc, tu es allé voir Skydome 2123. On a eu déjà, il y a quelques temps, Mars Express, un film d'animation française, très bon, sur justement un film d'anticipation. Ouais. Là, on traite aussi de ces sujets d'un futur post-apocalyptique. Qu'est-ce que tu as pensé de ce dôme ?
Que du bien. Que du bien. Donc, c'est un premier film et c'est un peu inattendu. Ça nous vient de Hongrie. Donc, on a déjà peu l'habitude de voir des films hongrois. Et en plus, ce type de film, donc c'est un film d'animation un petit peu particulier. Donc, 2123, c'est dans un siècle. Et les scientifiques du GIEC ont eu raison, voire ont sous-estimé l'importance du réchauffement climatique. La Terre est dans un état absolument épouvantable et ça a provoqué une immense sécheresse qui a quasiment détruit toute végétation, y compris les arbres. Et donc pour pallier à ça, grâce à une avancée entre guillemets scientifique, tous les humains à l'âge de 50 ans subissent un traitement qui les transforme en arbres. C'est incroyable.
Moi, voilà. Je suis preneur, moi.
Voilà. Voilà. Ouais. Et on peut même devancer l'appel, si j'ose dire. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce film. C'est-à-dire une jeune femme d'une trentaine d'années, par humanisme et peut-être d'autres raisons qui sont pas très claires dans le film, enfin dans sa tête en tout cas et chez nous spectateurs, va choisir cette voie-là au grand dam de son mari qui lui va tout faire pour essayer de la sauver.
Il y a des films, hein, où, je sais pas, il y a pas un film qui s'appelle Faire l'amour à des arbres, non? On pourrait en parler à son mari.
Oui, oui, oui. Enfin, lui, c'est plutôt le je voudrais que ça se produise pas, quoi.
Il y a une scène de Vendredi bleu l'âme du Pacifique de Tourdier, là.
Oui,
célèbre.
Oui, voilà, oui, bref. Oui, 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 oui. Donc, il va essayer d'arrêter ce processus qui, évidemment, est très, très compliqué puisque, même si c'est pas le sujet du film, on voit bien aussi qu'on est dans des sociétés très très autoritaires, très très autocratiques. C'est un film qui, à mon sens, renoue complètement avec un certain cinéma science-fiction dystopique des années 70. Hein. On pense à Soleil Vert, Silent Running, voilà, tous ces films qui déjà, avec 50 ans d'avance, décrivaient un peu ce qui se passe aujourd'hui. Soleil Vert, c'est assez incroyable. C'est des choses qu'on n'entendait pas à l'époque, qu'on prenait vraiment pour de la science-fiction et qui sont complètement réelles actuellement. C'est aussi un film d'amour. Donc c'est quelqu'un qui va défier un peu l'autorité par amour pour essayer de sauver sa femme, avec une question de fond qui est quand même assez intéressante, c'est est-ce que l'avenir de l'humanité est assuré et est-ce que c'est si important que ça ? En fait, quoi. Voilà, c'est tout le travail du film. Alors c'est un film qui est très documenté sur le sujet du réchauffement climatique. Ils ont fait appel à des météorologues, à des géologues. Donc, c'est un film qui a mis 7 ans hein, à se construire. Et l'animation est, je trouve, très très bien réussie aussi, puisqu'ils ont utilisé comme fond des photos de sites, alors sites abandonnés, déserts, etc., qui ont été travaillées et qui donnent ce décor vraiment très très futuriste, post-apocalyptique. Et là-dessus, ils ont tourné en rotoscopie. Alors la rotoscopie, pour revenir un peu sur le procédé, on filme des personnages réels et on redessine sur ces personnages, ce qui donne une animation. Alors évidemment, ça coûte un peu moins cher en décor. Par contre, c'est très chronophage. Mais pour un film d'animation, ça donne une sorte de vérité supplémentaire aux comédiens, puisque tout est calqué sur des expressions réelles. Et puis, effectivement, on citait Mars Express tout à l'heure. C'était très, très bien également. Et on a deux exemples, hein, à quelques mois de différence, de peut-être un nouveau genre cinématographique, c'est-à-dire la dystopie science-fiction en animation européenne. Et vraiment, c'est tout à fait réussi. Alors, juste une petite anecdote pour terminer sur la rotoscopie. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, sans la rotoscopie, on n'aurait pas eu les sabres laser de Star Wars. Puisque, en fait, les comédiens avaient des espèces de manchons. Voilà, et tout a été repeint et redessiné sur ces manchons. Voilà. Donc, vraiment, c'est à Priva, je crois. Hein. C'est cette semaine. C'est un film rare. J'ai regardé les démarrages spectateurs qui sont très mauvais. Ah. Et c'est vraiment dommage. Donc, si vous voulez voir un film original, intéressant, actuel, voilà, Skydome 2123.
Courez au Vivarais à Priva.
L'animation a un petit peu du mal à percer. Et Mars
Ça dépend,
voilà. Mars Express avait rempli les salles à Aubenas. Hein.
Oui, Mars Express avait mieux fonctionné. Je pense que là, l'idée du film hongrois, c'est un peu compliqué peut-être pour des spectateurs, mais franchement, ça pourrait être un film américain, ça pourrait être un film français, c'est vraiment excellent.
Et puis, il y a peut-être eu une moins grosse couverture médiatique que Mars Express. Le deuxième acte de ce cinémascope.
On n'imagine pas tout ça quand on regarde un film chez nous. C'est dingue, les coulisses.
Alors, on se donne beaucoup de mal, hein, pour vous offrir un petit peu de magie.
Merci. Quelqu'un de la production nous a dit que c'était le premier film entièrement réalisé par une intelligence artificielle. C'est vrai, ça?
Oui. Écrit et réalisé par une intelligence artificielle. C'est une première mondiale.
Ah bon? Mais ça veut dire quoi, concrètement? On n'y connaît rien, nous.
En fait... Ouais, non. Je préfère pas vous expliquer, en fait. C'est un peu triste. Continuez à rêver. C'est mieux.
D'accord.
Est-ce que tu as rêvé, Olivier, en allant voir le deuxième acte de Quentin Dupieux, dont on vient d'entendre un court extrait? Là, on entendait Louis Garrel dans un restaurant.
Oui, non seulement j'ai rêvé, mais j'ai pensé, et puis j'ai vu du cinéma, j'ai vu des performances d'acteurs assez hors normes. On a pas mal de films ces derniers temps, avec des films dans le film, hein, on a eu Le Livre des Solutions, on a eu Making of, etc. Donc on a envie de dire un de plus, sauf que là, au niveau, au plan de l'écriture, du montage, de la direction d'acteur, de la mise en scène, on a quelque chose de très précis qui permet, à mon sens, hein, qui permet à Quentin Dupieux de resserrer son propos en 1h20 ou à peine plus, de manière, ça donne au film une efficacité extraordinaire. Alors on prend un plaisir de cinéma redoublé, puisque on voit un film et on voit la fabrication d'un film en même temps. Mais vraiment, du point de vue du montage, les deux choses se mêlent l'une à l'autre de manière très très intime, au point qu'évidemment, par moment, on perd un peu pied et Quentin Dupieux, j'allais mélanger, nous rattrape, nous sort de l'eau dans laquelle on allait se noyer pour nous remettre sur les rails. C'est d'ailleurs une image qui est utilisée dans le film, pour faire des travelling comme ça, hein, voilà. Et donc, alors, d'un point de vue philosophique, bon, ça a quand même été un petit peu mon métier, ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est non seulement une réflexion sur le cinéma, la création cinématographique, la machine à rêve que constitue effectivement le cinéma, et en particulier le cinéma qui est à Cannes, le cinéma qui est à Hollywood, enfin voilà.
Il a fait l'ouverture
Cinecita,
d'ailleurs.
Voilà, il a fait l'ouverture, et je trouve ça assez extraordinaire que le système intègre justement une vision spéculative sur lui-même. C'est bon, je pense que c'est une des adresses du système, évidemment. Et Quentin Dupieux, malheureusement ou heureusement, se prête au jeu. Moi, je dis heureusement parce que, après tout, c'est un très bon film. Et alors, il y a une, au-delà de cette réflexion sur la création cinématographique, il y a une vraie question sur l'opposition. Est-ce qu'on arrive à la faire nous-mêmes, en nous, entre la réalité et la fiction ? C'est quand même un thème qui est abondant dans la production cinématographique, avec les docu-fictions, les films pseudo-historiques ou réellement historiques, enfin, etc. Il y a une vraie question là-dessus. Et puis, beaucoup plus loin, et tout à fait sérieusement, il y a une interrogation sur nos existences. Quelle est, dans nos existences, la part de l'honnêteté du jeu, la part du réalisme, du goût pour la vérité sur les choses, et puis le goût pour la manufacture de nos vies, hein, pour tirer profit, pour réussir ses affaires, ses histoires d'amour, on est prêt à mentir jusqu'où, on est prêt à jouer un rôle jusqu'où, quitte à laisser un peu de côté les réalités. Et je trouve que en particulier grâce à l'efficacité de la réalisation, ces problèmes métaphysiques très pas complexes, ce sont pas des problèmes complexes, ce sont des problèmes difficiles à prendre en main pour se les poser dans nos existences mêmes. Et je trouve que à cause de l'efficacité de la réalisation, ce film tourne en une sorte de méditation réel, tu parlais de profondeur, allons-y, une méditation éventuellement assez profonde. Vous sortez du cinéma, et en sortant du cinéma, vous vous dites, je rentre dans le film de ma vie, ou je veux vivre réellement ce que je vis. Et il y a vraiment... Alors moi, Quentin Dupieux, ça fait un moment que je le détestais, ça fait un moment que je commence à vraiment l'apprécier.
Oui, le précédent film, tu avais...
Oui, Yannick, c'était déjà... Mais même avant...
Dali,
que j'avais trouvé extraordinaire. J'avais trouvé la meilleure vision qu'on pouvait avoir sur cet étrange personnage de Dali. J'avais trouvé ça d'une très grande finesse, d'une très grande justesse. Quant au surréalisme, au business, enfin, etc., c'était vraiment très intéressant. Oui, merci de me le rappeler. Et puis, alors là, moi, j'ai envie de dire cerise sur le gâteau. Et c'est un point de vue qui est partagé par d'autres spectateurs qui l'ont vu en même temps que moi l'autre jour, mercredi.
Le deuxième acte, une immersion métaphysique, si vous voulez, à avoir au navire, à Aubenas.
Avec une performance d'acteurs, franchement, tous... mais particulièrement Léa Seydoux et Vincent Lindon sont vraiment extraordinaires.
Merci, donc à Aubenas au navire et bientôt à Privas, au Teille et à Valls. Allez, on continue avec un autre film qui a beaucoup fait parler de lui et qui fait parler de lui.
Furiosa, we've come too far.
My world was forever changed. My mother was magnificent. And he took it all from me.
Who do we have here?
Bien sûr, vous aurez reconnu Furiosa, une saga Mad Max, un film de George Miller avec notamment Anya Taylor-Joy. René, tu es allé voir Furiosa.
Oui. Et en écoutant la bande-son, je me disais qu'on aurait pu intituler ce film sans problème « Le bruit et la fureur », citation de Shakespeare, parce que c'est ça, c'est un film plein de bruit et plein de fureur. Donc c'est un film qui nous entraîne, Furiosa, donc c'est un film qui nous entraîne dans un univers post-apocalyptique,
encore
le deuxième de l'émission, un monde détruit par des guerres pour le pétrole, dans un environnement ravagé. Hormis la scène d'introduction, l'essentiel du film se déroule dans un désert, un monde en proie à une violence de tous les instants, Et au début du film, la jeune Furiosa, personnage principal, est kidnappée par une horde de motards à la solde du redoutable Dementus, le bien nommé. Et cet enfant de 8 à 10 ans, au début du film, va grandir. Et quand elle arrive à l'adolescence, elle va entreprendre de se venger de ceux qui l'ont kidnappée. Voilà. C'est long. Alors, si on s'en tient à la toile de fond, ce qui constitue l'intrigue du film, qui est très simple en fait, c'est l'affrontement entre deux hordes rivales. D'un côté, Immortan Joe, qui règne sur une citadelle en plein désert, et de l'autre, le gang des motards, emmené par le redoutable Dementus, et qui, lui, rêve de s'emparer de la forteresse d'Immortan Joe. Alors, dans ce film, l'action ne se relâche jamais, mais ça n'étonnera pas les habitués de la série des Mad Max. En fait, de bataille en poursuite infernale, on est gâté. Et il faut reconnaître que la mise en scène de ces scènes d'action est absolument magistrale, de précision, d'inventivité, de spectaculaire. Les costumes, il faut dire un mot sur les costumes. Il vaudrait d'ailleurs peut-être mieux parler d'accoutrement. Les protagonistes sont étonnants. C'est une sorte de patchwork entre la tenue en cuir des motards, qui sont en plus affublés de tout un attirail qui n'est pas sans rappeler l'harnachement des Vikings et autres guerriers de notre âge. On comprend qu'il s'agit de terroriser l'adversaire, et peut-être même le spectateur. On peut dire la même chose des engins de guerre utilisés par les personnages, et là aussi, George Miller et son équipe ont fait preuve d'une inventivité assez remarquable. Ces engins hybrides, souvent c'est un compromis entre la moto et le tank, sont en fait très difficiles à décrire. Tant ils sont...
C'est pas hybride, électrique, thermique.
Non,
ah, d'accord.
Non, pas ça. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils sont difficiles à décrire, tant ils sont originaux. En un mot, ils sont conçus pour tuer vite et bien. Voilà. Si on s'en tient à ça, c'est un superbe film d'action. Mais moi, je pense que l'ambition de Miller et l'auteur-réalisateur du film va bien au-delà. En fait, ce film est une fable qui en dit long sur les dangers qui nous menacent et sur ce qui risque d'être notre destin, la mise à sac de l'environnement, la violence et surtout la technologie mise au service de la violence. Dans l'univers de ce film, la seule chose qui marche bien, c'est cette panoplie d'engins qui sont des armes et qui sont au service de la violence la plus effrénée. Voilà, une fable teintée de mythologie aussi. Mythologie germanique avec les allusions au Wahala, dimension religieuse chrétienne aussi, avec des images de crucifixion et surtout une première scène emblématique qui rappelle étrangement la chute du paradis terrestre tel qu'on la trouve dans la Genèse. Le personnage principal cueille un fruit, elle est dans une espèce d'îlot de verdure, une espèce de petit paradis dans ce désert, et tout de suite elle est kidnappée et éjectée de cet univers, de ce paradis en quelque sorte. En plus, j'y ai fait allusion, immédiatement là. L'essentiel du film, pour ne pas dire la quasi-totalité, se déroule dans un désert. Mais ce n'est pas le désert des évangiles où l'on peut se ressourcer, c'est un désert habité par des hommes que rien ne peut racheter. En fait, je pense que George Miller a fait un film sur l'enfer. Voilà. Pour terminer, j'ajouterai que ce n'est pas du tout le genre de film que j'aime en général. Ça dure 2h30 et pourtant, je n'ai pas vu le temps passer. Je conseille vivement à ceux qui nous écoutent d'aller voir ce film assez extraordinaire qui est intitulé Furiosa.
Le désert dont tu parles pour se ressourcer, pour méditer aussi, il est peuplé aussi d'esprits malins qui viennent te tenter et te torturer. C'est la tentation de saint Antoine, si tu veux, c'est même le Christ au désert, etc. Donc,
Mais là, si tu veux, ce qui est frappant, c'est... Moi, je trouve que 7 siècles après Dante, c'est une réinterprétation de l'enfer. Mmh. C'est l'enfer. Il n'y a aucun endroit où tu peux te sentir en sécurité. Mmh. C'est la torture permanente au niveau du bruit, parce que le bruit aussi est un enfer. Le bruit, la mort, le feu. Il y a toute cette imagerie de l'enfer qui est reprise là-dedans.
C'est la sécheresse de l'âme, la sécheresse des sentiments. Pardon ? C'est la sécheresse de l'âme et la sécheresse des sentiments.
Oui, ce sont... Oui.
Tu avais déjà vu les autres Mad Max ?
Je n'avais pas vu les autres Mad Max. Mmh. Et j'ai été stupéfait de voir combien ça pouvait être intéressant.
Mmh. Mmh. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Je suis un fervent amateur de la saga, mais ça rappelle furieusement, effectivement, les films précédents, c'est-à-dire le désert, les engins customisés à l'extrême, et ce côté où il n'y a pas de paix possible. Voilà. Il n'y a pas de paix possible, on a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête, on ne sait pas ce qui peut arriver.
C'est ça, c'est la dimension infernale du film.
Voilà. Mmh. Et avec un sens du spectacle fabuleux, et c'est extraordinaire.
Et avec donc un personnage principal qui est une femme. Voilà. J'ai entendu beaucoup de critiques se demander si c'était un film féministe ou pas. Toi, tu as une...
Alors, effectivement, apparemment, je n'ai pas vu The Mag, mais c'est le seul film où les femmes jouent un rôle essentiel.
Non, le précédent était très, très féministe. Et ouais. D'ailleurs, le précédent... où Mad Max était présent, oui. C'est un peu une marionnette. Il est capturé dans les cinq premières minutes, il est maltraité, il est sauvé par des femmes, et c'est vraiment... Non, le quatrième opus était vraiment...
Il y a 9 ou 10 ans. Voilà,
alors, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais le précédent également était techniquement assez particulier, dans le sens où, à l'époque actuelle, il y avait très peu d'effets numériques, il y avait pratiquement que des cascadeurs. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ici,
vu la dimension ultra spectaculaire des scènes, il y a forcément énormément de trucage, je ne sais pas comment on appelle ça.
Je ne sais pas, parce que c'est ce qu'on aurait pu penser également dans le quatrième opus, donc le précédent, et ce n'était pas le cas.
The Fall Guy, le dernier film justement sur les cascadeurs, montre qu'il y a encore beaucoup de cascades.
Ouais. Oui, là, je veux dire.
Allez voir donc Furiosa de George Miller à Aubenas, Privas et à Ruons. Allez, avant de partir.
Bienvenue à Paris.
Il reste une petite semaine d'Olympiade. Si ça continue comme ça, on risque de finir nos jeux à zéro médaille d'or.
Ouais, c'est des cons.
Il y a eu un SMS dans le public, ça fait tut-tut. Moi, j'entends tut-tut. Je plonge, je crois.
Ça fait quoi d'être un des premiers tennismen vraiment nul?
On est ridicule.
Marie Aude, la superintendante du groupe France.
Vous connaissez Paul, le shérif?
On vient, on gagne, on s'en va.
Et vous êtes donc l'adjointe du shérif?
Bah non, je suis sa coach.
L'esprit Coubertin de Jérémy Sagne, qui est le réalisateur de la très bonne série Parlement.
Avec... Ah, c'est lui. D'accord.
Ouais. Donc, l'esprit Coubertin avec Benjamin Voisin, Emmanuel Berco, notamment, Olivier, avec ton regard philosophique.
Oui, alors, philosophique ou pas. Donc, on me demande d'être rapide, je vais tenter d'être aussi court que le film, qui est très bon. J'ai été le voir un petit peu par devoir, quoi, pour voir... un petit peu, voilà, nourrir cette émission, puis me nourrir moi-même, quoi, mais comme ça, abstraitement. Mais c'est très, très intéressant. D'abord, c'est très drôle. Ça ridiculise tout ce monde, en particulier des JO, parce qu'on a l'impression que c'est les sacro-saints Jeux Olympiques. On n'a rien, on n'a pas le droit de lever le petit doigt contre cet enfer sur Terre, là aussi, parce que franchement, ça ressemble à rien. Enfin, c'est des longues minutes dans tous les journaux pour le passage de la flamme, pour je ne sais pas quoi, c'est ridicule. Donc là, c'est une bonne petite claque, tac, aux JO, ça fait pas de mal. Et en ridiculisant tout ce monde du sport, et en nous faisant rire ce faisant, il réussit à faire un film tout à fait intéressant sur le sport, c'est-à-dire il arrive, c'est quand même le comble, il arrive à nous faire kiffer des scènes de tir au pistolet de compétition. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi ces compétitions à la télé, mais c'est des trucs pour dormir. C'est des trucs, si en plus les JO ont l'air, sont diffusés à 3h du mat, c'est le truc, si vous faites de l'insomnie, c'est nickel. Et donc là, ça devient passionnant. On voit ce que c'est un vrai athlète de haut niveau, perfectionniste et tout. Et puis, en même temps, que à quelque niveau qu'on soit, on reste un humain avec ses peines de cœur, ses fissures familiales, etc. Donc, on voit tout ça. Ça m'a fait penser un peu à Laure Manoudou. D'ailleurs, il voulait dédier ce film à Laure Manoudou, qui était une machine à choper des médailles et qui, en même temps, avait une vraie vie. Et elle s'est fait énormément critiquer parce qu'elle avait juste une vraie vie au lieu de simplement ramener des médailles d'or à la France, quoi. Voilà. Donc, moi, je trouve que là, il a fait vraiment un truc dans lequel il dit s'être
profondément impliqué, s'est beaucoup dévoilé. Et il cite, je crois, John Ford, mais il n'est pas sûr de la citation, il dit « Un film est bon quand on a honte de le montrer ». Parce qu'on va, montrer trop de choses de soi, et il dit que ce film lui a fait cette impression-là quand il l'a donné au distributeur pour qu'il parte. Quoi.
C'est
une satire qui arrive dans la satire à montrer la beauté de la chose vraie.
Ouais, ouais. Il avait déjà d'ailleurs réalisé un court-métrage qui s'appelait Gol Volant, je crois.
Ah,
donc il s'est déjà vraiment intéressé. En fait, la question du sport
l'intéresse vraiment. Il est supporter vraiment. D'une équipe de rugby. Il connaît le sport, il aime le sport vraiment.
Et finalement, c'est peut-être un film qui rejoint un peu plus ce qu'on disait tout à l'heure sur le post-humanisme, c'est-à-dire jusqu'où on considère, nous, être humains, qu'on peut aller. Est-ce qu'à un moment donné, on se considère uniquement comme humain, ou alors est-ce que comme des machines
en fait. Il montre qu'il y a une beauté dans la recherche de perfection, à condition que ça ne fasse pas oublier l'humain, justement.
C'est ça.
C'est très bien fait, de ce point de vue-là.
L'Esprit Coubertin, donc, qui est à l'affiche en ce moment à Aubenas et Rosières. On termine avec un mot sur Les Affranchis, évidemment, de Martin Scorsese, un film de 1990 qui ressort là, pour les 100 ans de la Warner. C'est la dernière ressortie, enfin, c'est le dernier film dans le cadre de ces 100 ans de la Warner qui est encore à voir au cinéma Le Navire à lundi à 15h et mercredi à 20h45. Didier, alors si les auditrices...
Très rapidement, ouais. Oui, c'est un des grands classiques de Scorsese qui date de 1990 et qui revient une nouvelle fois sur les gangs de mafieux de Little Italy. Bon, à mon sens, c'est pas le meilleur des Scorsese dans ce style-là qui reste pour moi Gangs of New York, mais ça reste quand même un très très grand film, et revoir ça sur grand écran, c'est un immense plaisir qu'il ne faut pas bouder.
C'est ça, c'est tout l'intérêt.
Avec Robert De Niro, Joe Pesci, Ray Liotta, enfin, également une pléiade d'acteurs qu'on aime beaucoup.
Toute la bande.
Donc Les Affranchis au cinéma Le Navire. Aussi un mot sur l'agenda. Ce soir et demain soir, il y a la projection des 6 films de fin d'études des étudiants de l'école documentaire de l'USAS qui aura lieu au cinéma Le Regain, au Teil, à 20h. L'entrée est libre. Je dis aussi un mot, le 27, ce sera lundi, à l'occasion de l'anniversaire de la première réunion du Conseil national de la Résistance. Il y aura également au Teil la projection du film L'Armée du crime de Robert Guédidian sur le groupe Manoukian, en partenariat avec le Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche. Et puis donc ce sera le lundi à 14h, il y aura un débat ensuite, et puis il sera aussi rediffusé à 20h30. Voilà.
Dimanche,
tu me montres quelque chose, René, vas-y.
Oui, dimanche, je ne l'ai pas là. C'est pas le...
Sur, voilà, dans le micro.
Dimanche, Le Dernier Refuge, un film qui sera présenté, qui sera suivi d'une rencontre avec ceux qui assisteront à la projection. C'est le CCFD qui chapeaute cette projection. C'est un film sur les réfugiés.
Et oui, mais on en parlera la semaine prochaine, puisque ce sera dimanche prochain, c'est dimanche 2 juin.
Okay.
Mais merci, donc prenez date déjà. Bon cinéma à vous tous. Merci à tous les quatre, Sylvain, Olivier, Didier et René. Et nous, donc, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
Ciao.
Voilà.